Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale qui est basée sur mon ouvrage « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et encore disponible. Donc, nous en sommes au chapitre 5 de cet ouvrage qui est consacré à l'homme symbolique. Son portrait, comment le voir cet homme symbolique? Alors, je rappelle ce que nous avons dit lors de la dernière émission. À la différence de ce que dit Auguste Comte, selon lequel l'âge positif invalide et annule l'âge fictif ou théologique par lequel l'humanité a commencé, entendez, l'âge logique, justement, succède à l'âge mythique, mythologique. À la différence de cette vision, je pense, quant à moi, qu'il y a une multipolarité de l'esprit et que l'homme peut percevoir son monde, tantôt effectivement de façon logique, rationnelle, tantôt aussi de façon, alors je dirais, mythologique, mythique ou illogique, qui est une façon poétique. Et cette façon poétique d'habiter le monde, c'est une façon vivante. On retrouve une vie initiale, un monde dans lequel on était immergé. C'est pour cela que je pense que dans ce portrait de l'homme symbolique, il faut faire attention à ce qu'est l'expérience poétique. Il faut justement la valoriser. En effet, selon la logique, chaque chose a des causes ou des raisons véritables, rationnelles. Mais en fait, les anciennes visions ne sont pas invalidées. Par exemple, j'ai beau savoir que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, je continue de voir le soleil tourner, se lever le matin et se coucher le soir. C'est aussi une vérité psychologique, vous me direz. Quant aux illusions perspectives, est-ce qu'il faut les corriger? La Fontaine, au XVIIe siècle, siècle de rationnel, dit « Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse ». Bon, mais en fait, pour les yeux, seuls, avant que l'intellect n'intervienne, le bâton est vraiment courbé. Voyez par exemple comment Sully Prudhomme, grand poète du XIXe siècle, décrit le cygne. Le cygne est pris entre le ciel et son reflet dans l'eau. Il dit « Le cygne dort la tête sous l'aile entre deux firmaments ». Vous voyez, il y a le firmament au-dessus, le ciel avec ses étoiles, et puis le firmament reflété, qui est aussi un firmament. Et le même soleil se dédouble, un nouveau soleil apparaît, réverbéré par l'eau, dans le cimetière marin de Paul Valéry. Il écrit « Quand sur l'abîme un soleil se repose », vous voyez, donc c'est du reflet du soleil qu'il est question, mais ce reflet du soleil est véritablement un soleil pour les yeux, vous voyez. Donc, une fausse causalité, c'est une erreur pour l'esprit positif, mais c'est une vérité à côté d'autres vérités pour l'esprit en général, si vous voulez. Par exemple, on ne sait pas du vent s'il souffle dans l'arbre ou s'il est lui-même le souffle de l'arbre, vous voyez. On ne sait pas des oiseaux s'ils quittent l'arbre ou bien s'ils sont lâchés par l'arbre, vous voyez. Cette illusion, on pourrait l'appeler aussi hypallatique. J'ai déjà parlé de l'hypallage lors de la dernière émission, mais ici je prends hypallage non pas comme inversion de qualifiant ou transfert d'adjectif, si vous voulez, mais comme une figure non plus rhétorique ou syntaxique, mais comme une figure sémiologique, c'est-à-dire une perception inversée. Alors le petit Larousse définit comme hypallage une expression comme « enfoncer son chapeau dans sa tête ». Et il dit « il faut rectifier » en disant « enfoncer sa tête dans son chapeau ». Mais en fait, dans l'hypallage, on voit l'effondrement de la causalité positive ou la prétention à hiérarchiser les éléments tête et chapeau. Mais en même temps, René, la vie sensible, et aussi René, l'homme complexe. Ainsi, on peut dire, par exemple, que les arbres crient quand il y a du vent. C'est une expression tout à fait sensible et intéressante pour l'être humain. Les arbres crient quand il y a du vent. Les dieux parlent dans les forêts. Pensez par exemple aux oracles de Zeus que l'on entendait dans les chênes de Dodone. Mais ensuite, la logique intervient et la logique va analyser ce qui est d'abord perçu pourtant synthétiquement. La logique va discriminer, séparer, rétablir les vraies causalités, mais vraies entre guillemets, si vous voulez. Alors je dirais, c'est le vent qui souffle dans les arbres, et non plus les arbres crient quand il y a du vent. Mais enfin, dans l'expression « les arbres crient quand il y a du vent », il y a effectivement personnification de l'arbre, inversion des perceptions, si vous voulez, fausse causalité prise pour une vraie, mais c'est extrêmement intéressant et vivant. Alors, la logique, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je vais prendre un exemple. Elle va nous dire « Les oiseaux font entendre dans le feuillage leur chant joyeux ». Est-ce que c'est une phrase poétique? Évidemment, non. Non. D'abord, pourquoi chant joyeux? Pourquoi l'oiseau serait toujours joyeux? On dit bien, on dit gai comme un pinson, mais pourquoi le pinson serait-il toujours gai? Il peut être triste ou dépressif, ou même être ni gai ni triste, si vous voulez. Non, le chant joyeux, c'est un cliché. Mais surtout, les oiseaux font entendre dans le feuillage est une mauvaise expression par rapport à la poésie, parce que, justement, c'est une décomposition intellectuelle de la perception. C'est une dissection, une analyse au sens du grec analusis, qui veut dire dissolution. On dissout, justement, la perception sensible. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la réalité? Dans la réalité, on a perçu tout ensemble, au même moment, le chant, soi-disant le chant des oiseaux, et le feuillage. Donc, le chant du feuillage. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que les oiseaux, on ne les a pas vus, si vous voulez. On sait, a posteriori, que ce sont les oiseaux qui font ce chant. Mais on a d'abord entrevu, ou perçu plutôt, le feuillage et le chant. Donc, une expression poétique ici serait... Le feuillage chante, tout simplement. Et c'est bien plus conforme à ce que l'on sent, à ce que l'on voit et à ce que l'on entend. Tout le reste, c'est une organisation. Et l'école a sa part dans cette organisation, l'éducation aussi. Mais c'est une dépoétisation généralisée et un assassinat de l'âme. Si l'instituteur dit « tu dois écrire à son élève, l'oiseau fait entendre dans le feuillage son chant joyeux », eh bien, il dépoétise justement le monde. Alors, vous me direz, le feuillage chante, c'est une expression proche de la folie. Peut-être, mais c'est une expression, évidemment, extrêmement vivante. Alors ainsi, la nature va apparaître comme proche. C'est un temple aux vivants piliers, dont parle Baudelaire dans ses correspondances. L'homme y passe à travers des forêts de symboles, vous voyez. Et la logique, elle est diabolique. Alors, vous allez me dire, pourquoi diabolique? Parce que diabolique, c'est ce qui sépare, diabalein, l'oiseau fait entendre dans le feuillage son chant joyeux. Voilà, des séparations. C'est ce qui sépare. Le diable, c'est le séparateur, le diviseur, celui qui sème, par exemple, l'ivré dans le champ, dans l'évangile, ou bien celui qui sème l'indécision dans un cœur, vous voyez. Contre ce côté de division, eh bien, il faudrait réhabiliter le symbole. Le symbole, c'est ce qui unit, symbalein, ce qui met ensemble, vous voyez. Donc, diabalein, séparé, diabolique, diable, et symbalein, mettre ensemble, réunir. Eh bien, choisissons l'union contre la séparation. Alors, je sais bien que Dieu, dans la Genèse, a créé le monde, enfin, a organisé plutôt le monde avec des séparations, la séparation jour-nuit, la séparation terre-ciel, puis la séparation au sein de la terre entre les eaux et la terre ferme, etc. Donc, ce sont des séparations. Tout cela est utile, si vous voulez, pour se repérer dans le monde. Tout cela alimente la rationalité, la logique, la technique, la science, tout ce que vous voudrez. Mais tout cela fait périr, justement, la fusion, l'immersion de l'homme dans cette totalité peut-être chaotique, mais éminemment source de vie. Alors, le fameux hypallage dont j'ai parlé à plusieurs reprises manifeste la porosité de l'homme et du monde. Enfin, je pense qu'il faut dire un hypallage. Hypallatein, c'est échanger. Larousse, je crois, le met masculin, mais je crois qu'il vaut mieux le garder au féminin. Mais l'homme occidental, au contraire, tient les choses à distance. Il dresse des murs entre lui et les choses, vous voyez. Hein, et abondance aussi, il y a des murs en lui. Alors voilà, vous allez me dire, comment je parle là, hein? Abondance aussi, il y a des murs en nous, par exemple. Eh bien ici, je fais une synchise, syncheo, hein, c'est-à-dire une confusion. Hein. Synchise, c'est un mot grec, confusion en latin le traduit bien. Le discours se découd. Hein. Et je détruis l'unification logique, génératrice de plusieurs sens, comme par exemple aussi la suppression de la ponctuation, etc. Donc bien sûr, c'est du charabia, vous allez dire que c'est du charabia, hein. Abondance aussi, il y a des murs en nous. Bon, Mallarmé a généralisé la synchise, c'est vrai que Mallarmé a parfois besoin d'être traduit pour être compris, mais enfin, moi je suis quand même fasciné par cette synchise, cette confusion du discours, bien sûr la communication y perd, mais l'expression y gagne en vie. Hein. Et par exemple, à l'homme occidental, j'oppose très souvent l'homme indien qui est poreux au monde et immergé. Alors quand je viens de dire l'homme indien est poreux au monde et immergé, je viens de faire une hyperbate. Hein. Au lieu de dire est poreux et immergé au monde, j'ai disjoint justement les deux adjectifs, hein, poreux et immergé, en mettant au monde au milieu. C'est un ravisement dans le langage. On se ravise constamment et se corrige. Nouvelle hyperbate, vous voyez, hein, ravisement. On se ravise constamment et se corrige. Pour on se ravise et se corrige constamment, vous voyez. Donc c'est une transgression, un franchissement, hyperbainein, parler, sauter par-dessus, si vous voulez. Hein. Et ce ravisement est un ravissement, parce que justement, la vie y triomphe. Hein. Et dans ravissement, je viens de faire une paronomase, vous voyez, hein, c'est-à-dire une juxtaposition de mots. Donc toute la rhétorique, toute la stylistique renvoie à cette vie retrouvée qui est une vie éminemment vivante, pour ainsi dire. Hein. Dans l'hypala, je suis entouré par le monde. Hein. Voyez l'hypala grammatical et le frôlement vert des branches attentives. C'est un vers de Verhaeren, vous voyez, hein, pour le frôlement des branches vertes. Hein. Le frôlement vert des branches attentives. Voyez une épalage perceptive avec vision frontale, profondeur étant abolie. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Chez Rimbaud, hein, c'est une vision bidimensionnelle et annulation de la perspective. Et là, c'est réhabiliter le paganisme. Le paganisme, c'est un monde justement où tout était proche. Hein. Il y a un livre de Marc Auger là-dessus qui s'appelle Auger, A-U-G-E, hein, le génie du paganisme. Bon, ce n'est pas parce que le christianisme a critiqué le paganisme qu'il l'a annulé. Hein. Moi, je serais volontiers pour défendre ce génie du paganisme contre le génie du christianisme de Chateaubriand. Bien sûr, je suis injuste en formulant la chose ainsi, mais dans le paganisme, c'est la campagne, les païens, la campagne, eh bien, il y a cette proximité. Mais alors, à propos des étoiles, les étoiles qui, au ciel, ont un doux froufrou, aujourd'hui, avec l'éclairage urbain, on ne voit plus les étoiles. C'est une catastrophe anthropologique. Parce que l'électricité, alors je dirais, elle va nous isoler, elle va dépoétiser le monde. Hein. Il y a un livre de Tanizaki qui s'appelle « Éloge de l'ombre », où justement l'électricité est condamnée, entre guillemets, comme dépoétisante. Je pense aussi au livre de Bachelard « La flamme d'une chandelle ». Le paganisme, il peut toujours renaître. Hein. Il peut y avoir résurrection des dieux profus. Hein. Tourgueniev disait que le grand pan était mort, mais il peut renaître. Hein. Par exemple, il renaît dans la résurrection des dieux de Merejkovski. Hein. Vous savez, comme un empereur comme Julien l'Apostat avait voulu restaurer le paganisme. Un empereur romain restaurer le paganisme. Malheureusement, il n'a pas été suivi. Mais ce paganisme renaît chez Hugo, par exemple, lorsqu'il dit « ce que Pan formidable enivre dans les mages hein. ». Pan, le dieu qui a donné naissance à la panique, ce qu'on appelle la panique. Il y a un tableau de Goya qui s'appelle « La panique ». Donc vous voyez qu'en art, le grand Pan peut renaître. Hein. Donc je crois que, comme le dit Nerval, hein, Ils reviendront, c'est Dieu que tu pleures, toujours, voyez. Ils reviendront, c'est Dieu que tu pleures toujours. Hein. Ils peuvent revenir. Hein. C'est Dieu. On passera des dieux enfuis aux dieux enfouis au cœur de l'homme, au plus profond de nous. Alors ils sont peut-être aujourd'hui faibles, c'est-à-dire qu'on pleure sur eux. Hein. Flébiles, c'est la racine de flairer en latin, pleurer. Hein. Donc on pleure sur eux, mais peut-être que plus tard, ils reviendront. Vous voyez Apollinaire, la chanson du mal-aimé. Hein. Mars et Vénus sont revenus, ils s'embrassent à bouche folle, etc. Donc prions pour que ces dieux reviennent. Voilà, après cette petite respiration, reprenons le cours de notre analyse. Hein. Alors, je dirais qu'il y a une préscience des mythes. Hein. Le mythe, mythos en grec, c'est le langage non rationnel. Il précède le langage rationnel, bien sûr, qui est logos. Hein. Comme la métaphore ou le langage analogique peut précéder le langage logique. Mais aussi, je me pose la question suivante. Si ces deux langages disaient à l'esprit ou sur l'esprit, chacun à sa façon, la même chose. Alors prenons quelques exemples. Les anciens mythes parlent par exemple de familles poursuivies par le destin ou familles maudites, victimes des dieux. Ainsi, la famille des Atrides, la famille des Labdacides, etc. Hein. À partir du festin d'Atrée, qui avait servi en nourriture à son frère Thieste ses propres enfants, on a eu une suite de meurtres. Hein. Le meurtre d'Agamemnon a suivi, puis la vengeance d'Électre et d'Oreste, ses enfants, le meurtre des meurtriers, de Clytemnestre et de son amant Égiste, et le châtiment qui en retour va peser sur les nouveaux meurtriers. Le sang appelle le sang. Hein. C'est le sujet de l'Orestie d'Échille. Là, il s'agit des Atrides. Quant aux Labdacides, les descendants de Labdacos, hein, eh bien, la malédiction, de la même façon, va les frapper de génération en génération. D'abord, Œdipe va créer son destin en essayant de l'éviter, puis ses enfants, et Antigone en particulier, qui va mourir en affrontant Créon. Hein. Œdipe roi et Antigone de Sophocle incarnent cet enchaînement. Hein. Le sang appelle le sang. Quant à Euripide, le troisième des tragiques grecs, il montre comment les dieux s'acharnent sur l'être humain qu'ils dévorent par la passion qu'ils font naître en son sein. Hein. Par exemple, Hippolyte est victime de l'amour et il inspirera Phèdre de Racine, hein, qui dit par exemple « Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc ont allumé ce feu fatal à tout mon sang ». Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la modernité? Quel rapport avec la science moderne? Qu'est-ce que nous disent ces mythes, hein? La science moderne nous dit que chaque être naît avec un certain matériel génétique, un stock chromosomique qui influencera de façon impérative certains paramètres de sa vie et non pas des moindres. Hein. Alors, ce qu'on appelle l'ADN, hein, l'ADN aujourd'hui. Hein. Non seulement la couleur de nos yeux, non seulement notre poids, non seulement la hauteur de notre taille sont influencés par nos gènes, mais aussi la sensibilité à certaines maladies, dont certaines sont très graves ou mortelles. Donc, il y a une terrible inégalité entre les êtres quant au terrain, aux dispositions ou prédispositions à telle ou telle maladie, à telle ou telle atteinte. Et là est une part évidente de notre destin. Comme il y avait des familles maudites par les dieux autrefois, hein, Atrides, l'abdacide, etc. Il y a aujourd'hui des familles de cardiaques, des familles d'arthrosiques, des familles de cancéreux, etc. Hein. Le phénomène n'a pas changé de l'âge mythique à l'âge positif. Tout se passe comme si le mythe avait prédit ce que la science moderne a découvert, vous voyez. Hein. Alors les contes nous disent, il y a une grande sagesse des contes, il faudrait les écouter. Hein. Les contes nous disent que lorsqu'un enfant naît, les bonnes et les mauvaises fées viennent se pencher sur son berceau et lui apportent tour à tour qui des bons cadeaux, qui des mauvais cadeaux. Eh bien, je pense que c'est la même chose là que ce que dit aujourd'hui la génétique. Vous voyez, le mythe rappelle fort opportunément qu'il y a une grande naïveté à vouloir défataliser le monde, c'est-à-dire enlever le destin de ce monde. Le principe scientifique de l'hérédité, je dirais que c'est Némésis sans son masque. Némésis, c'est la déesse de la vengeance des dieux dans la mythologie grecque, vous voyez. Ainsi, Héraclite disait « Notre caractère, c'est notre démon, c'est-à-dire notre destin. Ethos anthropodaimon, hein, notre caractère et notre destin. Le destin, il vit dans nos gènes, dans notre sang. Le sang dont j'ai parlé à propos de Phèdre, hein, ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé ce feu fatal à tout mon sang. Hein. » Aujourd'hui, Phèdre ne serait peut-être plus une victime des dieux, mais alors une nymphomane ou une érotomane, etc. Les fatalités modernes sont biologiques. Mais en fait, on n'a pas changé les choses. On les a baptisées différemment, vous voyez, hein, tout simplement. Donc je dirais que le mythe anticipe sur le savoir scientifique lui-même. Et bien loin de dire que la science détruit le mythe, on pourrait dire simplement qu'en bien des cas, la science justifie ou corrobore le mythe. Hein. Et est-ce qu'on pourrait même imaginer un savoir humain qui soit exempt totalement de mythe? Non, je pense que non. Il ne faut pas mépriser le mythe. Il permet de voir en l'homme. Je prends un autre exemple. Lorsqu'un homme rencontre une femme et tombe amoureux d'elle, au sens propre de l'expression « tomber amoureux hein, », une chute, tomber, ça suppose une chute, l'anglais dit de la même façon « to fall in love hein. », eh bien l'homme rencontre son destin. Cette femme va être pour lui l'image ou l'archétype de la femme fatale. Alors, fatale vient du latin fatum, qui veut dire destin. Et cette femme peut le rendre cet homme envoûté ou fou. Et le mot provençal fada, renvoie à fatum aussi. Hein. Ça veut dire fou en provençal, mais ça veut dire pris en quelque sorte, et l'objet de la vengeance des dieux. Hein. Donc, cette femme fatale, c'est l'image de la sirène, qui est belle et qui est mortifère. C'est aussi des images gravitante de la magicienne qui transforme l'homme en animal, par exemple Circé hein, dans l'Odyssée d'Homère. Vous voyez comment Baudelaire définit la femme dans Le Voyage, hein, la Circé tyrannique au dangereux parfum, vous voyez. Hein. Donc c'est l'image de la femme vampire ou de la vampe, hein, c'est pareil, hein, telle qu'on la voit dans le cinéma hollywoodien. Alors, la sirène. Alors, la sirène, je sais bien qu'à l'origine, c'était des oiseaux, hein, mais maintenant, la sirène est considérée comme une femme mi-femme et mi-poisson. Hein. Bon, objectivement, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Un humoriste disait que si elle existait, on ferait des économies de chaussures, vous voyez. Hein. Bon, mais objectivement, elle n'existe pas. Mais du point de vue anthropologique, du point de vue psychologique, elle existe vraiment. Si on l'intériorise, si on la voit subjectivement, hein, une littérature et un art innombrable incarnent la sirène. Voyez le tableau de Munch qui s'appelle Vampire. Voyez aussi l'Atlantide de Pierre Benoît ou bien la sirène du Mississippi de William Irish qui a inspiré le film de François Truffaut qui porte ce nom. Hein. Je prends aussi un autre exemple, l'Arlésienne de Daudet. Lorsque Frédéric voit la jeune fille d'Arles, qui n'apparaît jamais, hein, l'Arlésienne c'est un peu comme Madame Colombo, il en est toujours question, mais jamais on ne la voit. Eh bien, il revient d'Arles et il est fou, il est envoûté, fada, hein, vraiment. Hein, et cela va causer son destin tragique, vous voyez. Donc, les exemples d'hommes annulés dans la mythologie par l'amour qu'ils éprouvent pour une femme sont innombrables. Hein, par par exemple, je ne sais pas, Samson et Dalila, vous voyez, dans la mythologie hébraïque, hein, Hercule au pied d'Omphale, hein, Héraclès au pied d'Omphale. Vous savez qu'Héraclès était un Rambo, une sorte de Rambo, un homme très musclé, tout cela. Eh bien, il est tombé amoureux de la reine de Lydie, Omphale, et le mythe nous le montre filant la laine au pied de la reine de Lydie, dans c'est l'annulation d'un homme. Vous savez, un homme nul, c'est pas beau à voir, mais il y a quelque chose de pire, c'est un homme annulé. Un homme annulé. Et donc, dans Hercule de Walt Disney, alors cet épisode de l'annulation par l'amour pour Omphale est gommé. Hein. On comprend bien pourquoi. Parce qu'il s'agissait de faire d'Hercule un personnage totalement positif. Alors, il y a une représentation de cet archétype qui est chez les insectes. C'est la mante religieuse. Vous voyez là-dessus les travaux de Roger Caillois. Et tout se tient en nature, une universelle analogie bien supérieure à la logique, qui est courte, hein, sous-tend toutes les choses. La goulue ou la goule sont des mythes, mais dans la réalité, il y a eu Messaline, hein, dont on nous dit, je crois que c'est Suétone, tandem, lassata viris, sed non satiata recedit, c'est-à-dire qu'elle s'éloigna des hommes fatiguée, mais pas encore rassasiée. Et sed non satiata, c'est le titre d'un poème de Baudelaire, vous voyez, hein. Donc, tout existe également et se correspond. Et il faudrait faire, comme l'avait vu Roger Caillois, une poétique généralisée, une archétypologie de l'imaginaire qui n'exclurait aucun rapprochement et qui donnerait de l'homme la connaissance la plus profonde. Donc il n'y a pas de satisfique, de fantaisie, hein, qui ne puisse rien dire sur nous-mêmes, donc qui ne soit susceptible d'exister. Vous voyez. Donc je vous renvoie aussi sur Messaline et sur ce qu'elle incarne. Au tableau de Klimt, Judith, qui, alors on voit que Judith tient la tête décapitée d'Holoferne, et Judith, toute femme qui caresse les cheveux de celui qui vient de lui faire l'amour, par exemple. Voyez aussi Salomé, à qui est apportée sur un plat la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc quand une femme dit à un homme « je te ferai perdre la tête », elle peut incarner le personnage de Judith, qui décapite Holoferne, ou de Salomé, qui obtient par sa danse, qui obtient la tête de décapité de Jean-Baptiste qui lui a apporté sur un plat. Voilà, eh bien écoutez, j'espère qu'il n'y a pas trop de choses dans ce catalogue. Hein. Il est nécessaire de réfléchir, bien sûr, encore sur ces thèmes. Nous reprendrons la même réflexion lors de la prochaine émission et nous voyons la nécessité d'une archétypologie, en quelque sorte, de l'imaginaire, l'homme symbolique. Voilà, rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.